Question d'islam par Al Benchir. Aujourd'hui, nous parlons de pensée politique en islam, et tout particulièrement en islam contemporain. Certes, c'est une présentation assez ramassée que nous fait l'historienne Constance Arminjon. Bonjour.
Bonjour, monsieur.
Merci d'être venu nous éclairer par vos connaissances comme historienne, mais aussi comme une femme qui s'intéresse aux faits islamiques, à l'exégèse coranique, au droit.
Exactement.
Aussi, vous êtes maître de conférence à l'École pratique des hautes études. Vous avez publié des ouvrages traitant de ces questions, et je cite tout particulièrement « Chiisme et État » aux éditions du CNRS, et puis « Les droits de l'homme dans l'islam chiite, confluence et ligne de partage ». C'est dire que vous connaissez ces sujets. On dit souvent qu'il n'y a pas eu un intérêt pour les sciences politiques au pluriel ou la science politique comme une science autonome en contexte islamique à travers l'histoire et même maintenant. Et vous, par vos études et vos recherches, vous montrez le contraire et vous démontrez le contraire.
Alors, les sciences politiques, d'ailleurs certains juristes musulmans déplorent l'absence dans le monde musulman d'une science politique qui serait, je dirais, une discipline traitant du politique et, je dirais, autonome à l'égard du droit islamique, le droit savant, le fiqh. C'est peut-être ça la particularité, mais sinon je crois qu'il est tout de même assez bien admis que les questions politiques sont, comme dans toutes les grandes traditions, importantes dans la tradition islamique.
Alors, dans votre ouvrage publié chez Labor et Fides, vous commencez déjà par la proto-histoire de cette émergence d'idées politiques, donc très tôt. C'est immédiatement après la mort du prophète.
En effet. Alors, si vous me permettez, je donnerai quelques éléments sur les circonstances de la préparation de ce livre, qui n'est pas le fruit d'un projet directement personnel, mais qui a été donc commandé par cet éditeur, qui souhaitait éclairer sur les grands débats de la traitant des théories politiques de l'islam contemporain à la lumière de l'histoire de longue durée. Et c'est donc pour, évidemment par conviction éprouvée par mon travail, mais aussi pour répondre à l'attente de l'éditeur qui souhaitait vraiment que ces débats contemporains soient éclairés par une mise en perspective avec l'histoire de longue durée.
Oui. Commençons tout de suite par cette notion, quitte à ce que nous y revenions tout à l'heure, c'est la notion du califat qui n'aurait pas ou n'a pas, ou peut-être a, une valeur sacrale.
Alors le califat, qui peut-être il faut le rappeler, le califat est la transposition en français du mot arabe, khilafa, qui veut dire la succession du prophète Mohammed lui-même, abstraction faite de la fonction prophétique. Et le calife, donc le premier calife à porter ce titre, de Khalifa, donc en arabe, Abu Bakr, était investi d'une autorité suprême sur la communauté musulmane, aussi bien religieuse que étatique. Il y a donc il était investi d'une autorité religieuse suprême. Par conséquent, bien entendu, le califat est une institution également qui a une dimension religieuse.
Ça, nous sommes en 632. Vous soulignez en passant que le vocable, le terme est dans le Coran, il ne désigne pas la fonction politique, puisque d'abord l'homme est le vicaire de Dieu sur terre, donc il y a une notion de vicariat, et puis il y a aussi quelque chose qui a trait à David, coraniquement il est prophète, on ne parle pas de sa royauté, mais en dehors de ça, le calife, en francisant le mot, c'est le successeur du prophète.
Exactement.
Les quatre premiers califes, dénommés ou surnommés ou désignés comme les califes de la rectitude spirituelle ou de l'orthodoxie ou qui sont les bien guidés, mais ces dénominations ne sont venues que bien plus tard, quasiment au 9e siècle, même au-delà.
En effet, alors je dois à un collègue justement qui a écrit récemment une histoire du califat, qui est Nabil Mouline. Nabil Mouline montre effectivement que c'est à partir du 9e siècle que les oulémas, pour différencier l'autorité des califes dont ils étaient les contemporains
abbassides,
voilà, de l'autorité, je dirais, des tout premiers temps de l'islam, ont élaboré cette notion de calife bien guidé. Il faut tout de suite ajouter que dans les premiers temps, Ali était maudit sous les Omeyyades. Autrement dit, cette notion de calife, parfois que vous traduisez par calife ayant une rectitude spirituelle, mais que l'on traduit couramment par calife bien guidé, est une notion non seulement tardive, mais qui donc a intégré Ali à une triade dont il était exclu.
Ali étant le quatrième calife, allez, utilisons l'appellation maintenant, parmi les bien guidés, sous les Omeyyades, pour X raisons que vous expliquez, les frictions et le différend qu'il a eu avec Muawiyah Ier, le fondateur de la dynastie Omeyyade, n'était pas, durant toute la dynastie Omeyyade, intégré à ce quatuor, ou quarteron, en tout cas les quatre premiers califes et bien guidés. Donc cette appellation est encore une fois tardive, mais les gens ne le savent pas.
Non.
Ce qui nous importe, avant de poursuivre ensemble cet entretien, c'est que le prophète de l'islam n'a pas laissé des consignes claires ou pas quant à sa succession et donc au statut même du califat.
En effet, même s'il y a, des hadiths qui font partie, donc hadith voulant dire propos attribués au prophète Mohammed, il y a des hadiths sunnites, comme chiites, disant que Mohammed aurait voulu faire un testament et qu'il en aurait été empêché.
Et qu'il serait mort intesta par cet empêchement.
Voilà.
Constance Arminjon, si le califat n'était pas du vivant du prophète une instance et puis une institution politique ainsi prescrite, du coup, elle devient une construction humaine.
Inévitablement. Inévitablement, avec des références sacrées. C'est-à-dire que le califat a été, je dirais, construit dans la longue durée. Il s'est régulièrement métamorphosé, mais il reposait sur l'idée centrale indiquée dans son nom même, donc que les détenteurs de l'autorité étatique avaient pour paradigme Muhammad lui-même.
Oui. Alors, vous avez évoqué les oulémas, terme générique pluriel, indiquant les savants, les docteurs de la loi, y compris aussi certains jurisconsultes, qui ont commencer par théoriser la gouvernance et vous évoquez donc un certain Mawardi, mort en 1057, avec ses statuts gouvernementaux. D'ailleurs, le titre n'est pas que pour son propre ouvrage, il est aussi d'un de ses contemporains. Et là, on est quoi? Dans une théorisation d'une élaboration de la chose politique?
Alors, il m'a paru très intéressant dans ce travail donc d'analyse historique de la pensée politique d'observer le décalage très régulier, mais bien sûr imprévisible, entre l'évolution des institutions politiques ou politico-religieuses et l'évolution des théories politiques. C'est quelque chose qui est tout à fait passionnant. C'est-à-dire qu'un bouleversement politique très grand peut survenir sans qu'il ne soit pensé. Et c'est ce qui est notamment survenu pour le califat, puisque donc le califat, encore une fois, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, date de l'immédiat après décès du prophète Muhammad en 632, et puis s'est construit avec en outre un changement de dynastie en 750, donc les Omeyyades étant renversés et remplacé par les Abbasides. Et c'est seulement dans une période de crise du califat, autour du Xe siècle, dans une période aussi de débats intenses avec les chiites, que certains donc savants religieux musulmans sunnites ont théorisé l'exercice de l'autorité califale.
Alors, une toute première question, est-ce que dans cette théorisation de l'exercice du pouvoir politique, il y a une notion, j'ai lu dans votre ouvrage, vous parlez de théologie politique, est-ce que on était déjà avec l'idée qu'on gouvernait selon le désir politique de Dieu, outre le fait que le calife se présentait comme l'ombre de Dieu sur terre? On avait besoin, là, à ce moment-là, d'une caution garantie par le divin.
Ce terme de théologie politique a plusieurs sens. D'abord, cette théorie politique était enseignée, était incorporée dans l'enseignement de la théologie. Donc, du point de vue disciplinaire, en quelque sorte, dans les écoles religieuses, on enseignait la doctrine du califat dans le cadre de l'enseignement de la théologie. Et d'autre part, plus fondamentalement, comme vous le suggérez, les juristes religieux considèrent que l'institution du califat, en l'occurrence, est une nécessité pour la perpétuation de l'islam comme religion. Autrement dit, l'instauration du califat, comme on le voit encore dans des débats du XXe siècle, est une nécessité pour la religion musulmane, d'après la doctrine donc théologico-politique sunnite. C'est la raison pour laquelle c'est plus qu'une caution, c'est bien plus fort encore.
C'est-à-dire c'est même que une nécessité
c'est une exigence, c'est une exigence du droit religieux.
Bien. Bon, nous verrons avec vous à la fin de cette émission que ces choses-là font partie de toute une effervescence intellectuelle dans la période contemporaine, dès la seconde partie du XIXe siècle. Mais là, nous poursuivons un peu sur la tapisserie des siècles, cette évolution et cette élaboration de la doctrine politique. Que répondez-vous, Constance Armengeon, à ceux qui vous disent « Oui, mais parallèlement à ça, il y a eu une longue tradition de miroir des princes où ceux qui ont composé d'ouvrages, de conseils et d'éthique pour les gouvernants s'adosser davantage à ce qui se passait chez les Sassanides avec Chosroès ou avec Alexandre le Grand ou même chez le Basileus byzantin qu'une véritable doctrine politico-religieuse intrinsèquement islamique.
Oh, je pense que, bien entendu, cette tradition des miroirs des princes illustre, je dirais, la richesse de la civilisation islamique, de même que dans d'autres traditions, il y a plusieurs, on pourrait dire, genres littéraires, en quelque sorte, parce que c'est de cela qu'il s'agit. La pensée politique n'est évidemment pas réductible aux théories juridico-politiques, comme celle du califat ou celle de l'imamat. Elle est à la fois parallèle et entremêlée, en quelque sorte, dans la conscience des penseurs et d'un temps.
Dès le XVIe siècle, avec Soulayman le Magnifique, notamment, peut-être même avec son père, Selim Ier, il va y avoir une production du droit un peu sécularisée.
C'est ça. On attribue à ces sultans ottomans. Ce serait intéressant d'ailleurs que les auditeurs français sachent que celui que nous appelons Soliman le Magnifique était appelé dans le monde arabo-musulman Soliman le canoniste, littéralement, hein. C'est-à-dire celui qui, sous l'égide duquel on élabore un canon au sens grec de kanon, une loi, donc une loi séculière.
C'est vrai qu'il était affublé de deux épithètes en dehors de magnifique. Il était le bâtisseur, la Souleymanie en témoigne, et les remparts de Jérusalem qui ont été restaurés, rebâtis. Et surtout, c'est que sous son égide, il y avait ce canoun, vous avez raison. Et donc, à partir de là, le monarque, enfin le sultan, après vous nous dites comment ils vont s'adjuger le titre de calife, vont produire sous leur instigation du droit séculier.
C'est cela. Cependant, je crois que la nature et l'ampleur des codes élaborés donc sous les sultans ottomans fait l'objet de discussions actuellement. Donc, je ne pourrais pas vous répondre. C'est un sujet pour lequel on ne peut pas être catégorique. Il est rarement possible d'être catégorique en matière historique, mais tous, en particulier pour cette question assez complexe, certains. Alors, il est avéré, je crois, même si ça n'est pas tout à fait ma période, mais que les premiers codes étaient promulgués par un sultan en particulier, et que pour se perpétuer, ils devaient être confirmée par leurs successeurs. Autrement dit, la notion, si vous voulez, de pérennité de l'État, de droit étatique, n'était pas encore en place dans les tout premiers temps de ces codes ottomans, donc qui ont été promulgués à partir du XVIe siècle. C'est peu à peu, mais malheureusement, encore une fois, ça fait l'objet de discussions parmi les spécialistes de droit ottoman. Peu à peu, donc, les codes promulgués par des sultans ont acquis une certaine pérennité, sont devenus pleinement des codes, on pourrait dire, de l'État ottoman.
Oui, avec cette notion de la continuité de l'État et que ce n'est plus assujetti au bon vouloir du sultan.
Exactement.
Au même moment, dès le tournant du XVIe siècle, de 1501, il va y avoir la dynastie Safavide en Iran. Parce que là, on est en contexte plutôt sunnite. Par la suite, la confession chiite, je ne trouve pas d'autre mot, va être érigée un peu en religion d'État. Et comment ça se passe sous les Safavides aussi, dès le fondateur Ismail Shah, mais surtout sous Abbas Ier. Et vous avez même évoqué dans votre livre Tahmasp.
Oui. Alors, bien entendu, l'histoire du chiisme et de la théologie politique chiite ne commence pas avec les Safavides.
Bien entendu.
Mais ce qui l'importe de noter, c'est que les Safavides, donc, et en la personne du fondateur de la dynastie, qui était d'origine turque, Ismaïl Ier, les Safavides instaurent pour la première fois le chiisme duodécimain, celui qui vénère 12 imams, Ali, l'imam Ali et ses successeurs. Donc, les Safavides reconnaissent pour la première fois le chiisme duodécimain comme religion d'État. Et ceci entraîne de très profondes transformations conjointement de la pensée et des institutions politiques et religieuses du chiisme.
Constance Hermingeon, quand vous dites à juste raison que la doctrine politique chiite ne commence pas avec la dynastie Safavide, alors sa proto-histoire ou même sa préhistoire remonte jusqu'à quand ?
Mais sa proto-histoire remonte avec l'imam Ali lui-même, cousin et gendre du prophète Mohammed, qui, d'après les chiites, et notamment les chiites duodécimains, qui sont actuellement ceux qui sont représentés en Iran, en Irak, au Liban, dans plusieurs états du Golfe et en Inde. Donc, pour ces chiites dits duodécimains, l'imam était le successeur du prophète Mohammed, qu'il considérait comme légitime.
Alors, ils n'ont pas eu à exercer, le « il » renvoie au pluriel aux chiites, à exercer le pouvoir. Il y a la dynastie Bouyide, certes, sous le califat abbasside, il va y avoir les Fatimides aussi. Même avec ça, ils ont pu se mettre au contact de l'exercice du pouvoir.
Il faut, je crois, distinguer les branches du chiisme, c'est-à-dire que je par nécessité et par aussi du fait de mes propres limites, je suis plus familière du chiisme duodécimain, donc c'est de ce chiisme que je vous parlerai
pas
là,
ismaélien
et non pas du chiisme ismaélien que l'on appelle parfois septimain, qui est celui de la dynastie fatimide. Quant au Bouyides, donc qui est une que vous appelez dynastie, mais qui est en fait simplement une famille de gouverneurs d'origine iranienne, donc qui a exercé une bonne partie du pouvoir sous le califat abbasside du milieu du Xe siècle jusqu'à l'arrivée des Seljoukides en 1055, cette famille a été influente sans que, pour autant, le califat ne disparaisse ni n'adopte le schisme duodécimain comme confession officielle. Autrement dit, il faut distinguer, si vous voulez, le poids politique et culturel du chiisme dû au fait que cette famille de gouverneurs était chiite de, je dirais, la confession officielle de l'État. Thank you.
Alors, nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam. Nous parlons aujourd'hui de l'histoire de la pensée politique en islam, et tout particulièrement en islam contemporain, avec l'historienne Constance Herminjon, maître de conférence à l'École pratique des hautes études. Vous connaissez bien les questions relatives aux faits islamiques d'une manière générale, et vous m'avez dit aussi que vous vous intéressez à l'exégèse coranique et au droit d'une manière générale, et tout particulièrement au droit savant islamique. Nous poursuivons la discussion et vous avez écrit un livre chez Labor et Fides intitulé « Une brève histoire ». Ça, c'est votre humilité d'historienne et de savante qui parle de cette approche un peu ramassée, concise, de l'histoire de la pensée politique en islam contemporain. Peut-être avant d'arriver à ce qui nous intéresse maintenant, pourriez-vous nous dire quelque chose, ne serait-ce que d'une manière très très sommaire, de ce qui se passait sous les Moghols. Là aussi, comment on percevait l'exercice politique?
Il est très intéressant de noter que trois empires rayonnants du point de vue de la civilisation au sens général du terme, que ce soit de la pensée et de tous les arts, se sont construits simultanément en islam. Et je trouve ça magnifique de penser qu'il y a trois formes de rayonnement, certes, parfois violemment concurrentes, si l'on pense aux rivalités permanentes entre les Ottomans sunnites et les Safavides chiites du Haut-Décima. Mais du point de vue de l'histoire de la civilisation islamique, il y a, je dirais, une période 16e-17e siècle qui est vraiment une période de renouvellement profond des structures, des civilisations, et qui s'est fait par l'émergence de trois empires simultanément.
La période qui vous intéresse, et vous avez circonscrit ça donc dans le temps et aussi dans l'espace, puisqu'on est dans cette région à la fois l'étendue de l'Empire ottoman et ce que nous appelons depuis Paris le Proche-Orient ou le Moyen-Orient.
Jusqu'au Moyen-Orient. À la période contemporaine, étant donné leur importance, jusqu'à des penseurs indiens devenus pakistanais comme Maududi, par exemple.
Et de ce point de vue-là, on rentre dans l'ère du constitutionnalisme. Mais juste avant, qu'est-ce qui l'a préparé?
Ce qui peut-être devrait être rappelé, parce que nous traversons l'histoire à grande volée avec, grâce à votre érudition, peut-être faudrait-il rappeler aux auditeurs que les cadres théoriques sont prégnants en islam sunnite comme chiite, mais que l'exercice du pouvoir s'est profondément transformé régulièrement tout au long de l'histoire. Cependant, l'une des nouveautés qui a donc constitué un bouleversement majeur dans la pensée politique de l'islam a résulté de contacts multiformes avec une Europe hégémonique et en particulier avec certains États européens hégémoniques, principalement la Russie, la Grande-Bretagne et la France, qui sont devenus de plus en plus, imposants à partir du XVIIIe siècle. Et donc, peu à peu, si vous me permettez cette rétrospective, les États, les grands États souverains musulmans, et je me concentre donc sur l'État ottoman et l'État persan, qui entre-temps, à la fin du XVIIIe siècle, avait changé de dynastie, puisque les Safavides ont été renversés à la suite d'une conquête, on dirait aujourd'hui, d'Afghans, qu'on n'appelait pas exactement ainsi, en 1722. Et après quelques décennies de troubles, une nouvelle dynastie de nouveau d'origine turque, les Qajars, se sont donc imposés dans ce qui correspond à un Iran un petit peu plus étendu que ce que l'Iran actuel. Donc ces deux États ont subi plusieurs guerres de la Russie, ont fait face à des ingérences françaises, l'expédition de Bonaparte en 1798, des ingérences britanniques, et les États, donc ottomans et persans, ont cherché à se réformer pour se renforcer et résister à cette hégémonie. Les premières réformes ont donc été des réformes de l'armée. Il est vite apparu que ces réformes de l'armée ne suffisaient pas, et qu'il fallait que l'État se transforme et se rationalise, on dirait aujourd'hui. Et c'est ce que donc ont entrepris les sultans ottomans et les souverains persans. Nous sommes donc dans la première moitié du XIXe siècle. Peu à peu, des réformes du droit de manière très hétérogènes ont été entreprises, et notamment, quand je dis hétérogène, c'est parce que sans vous encombrer de détails techniques, j'ai moi-même, je dirais, récemment découvert la complexité des phénomènes juridiques, puisque certains domaines du droit ont pu être réformés au milieu du 19e siècle, mais d'autres domaines du droit civil ont été réformés. Par exemple, le droit de la famille n'a été réformé par l'État ottoman qu'en 1917. Autrement dit, c'est le droit, ce que l'on appelle le droit musulman, qui est donc le droit savant musulman, le droit élaboré par les savants religieux de l'islam, a subi d'importants changements, parfois souvent de forme, en étant codifié à partir du milieu du XIXe siècle. Mais si, pour être bref, donc il faut constater que l'État ottoman, d'abord, puis l'État Qajar persan, ont entrepris des réformes en différenciant les domaines du droit, et ces réformes du droit se sont aussi assorties de réformes des institutions judiciaires, avec l'instauration de tribunaux civils qui n'existaient pas auparavant. Instauration donc au milieu du XIXe siècle dans l'État ottoman et en Iran. Et on considère en général que l'adoption de constitutions a marqué en quelque sorte l'apogée d'un mouvement qui a duré plusieurs décennies de réforme du droit. Et c'est donc le constitutionnalisme, c'est-à-dire le régime constitutionnel et la théorie politique qui promeut un régime constitutionnel, donc c'est diffusé dans la deuxième partie du 19e siècle. On parle parfois de la Tunisie comme le premier pays à adopter une constitution en 1861. Je crois qu'il serait plus précis de dire que la Tunisie est le pays qui, certes, donc, a adopté la première constitution du monde musulman en 1861, mais la Tunisie n'était pas alors un État souverain. Elle était
un État vassal, on veut dire.
Voilà, exactement. De facto, la Tunisie était quasi autonome, mais déjourée, puisque c'est tout de même important en matière de constitution, la Tunisie n'était pas souveraine. Et donc, c'est l'État ottoman, qui, en 1876, qui a été le premier État musulman à se doter d'une constitution.
Ben, il y a le cas égyptien aussi, qui est à peu près dans la même situation.
Exactement.
Comment y a-t-il eu des réticences, des résistances, des blocages, ou simplement, de par le flot aussi des idées modernistes, on a adopté l'idée qu'il faut une loi fondamentale, puisqu'on a même traduit le mot, on parle de « kanun assasi ».
Alors, dans les...
De la part des oulémas, j'entends.
C'est ça. Alors, je reviendrai dans un moment sur les questions terminologiques qui sont extrêmement intéressantes, comme vous le signalez. J'aimerais d'abord observer que l'adoption d'un régime profondément nouveau en islam, comme celui d'une constitution, n'a pas fait l'objet de débats théoriques parmi les savants sunnites, et notamment la réflexion sur une éventuelle antinomie ou au contraire possibilité de concilier deux traditions juridiques comme celle donc représentée par le constitutionnalisme et l'autre, la tradition juridique de l'islam, ces débats n'ont pas eu lieu parmi les savants sunnites. Autrement dit, comme j'essayais de le montrer il y a un instant, il y a un décalage entre un bouleversement qui survient dans les institutions et la formalisation et l'intégration de ces bouleversements, de ces nouveautés, on dirait, dans la pensée politique. Il a fallu attendre, en fait, la révolution constitutionnelle survenue en Iran en 1906 pour que cette question tout à fait cruciale, qui continue d'occuper, et à bon droit, si j'ose dire, les juristes, quelle que soit leur tendance et leur statut institutionnel du monde musulman contemporain. Donc, il a fallu attendre l'événement de la révolution constitutionnelle iranienne de 1906 pour que la question de la conciliation entre deux traditions juridiques fasse l'objet de débats contradictoires. Et c'est ce qui est aussi particulièrement intéressant, c'est que cette idée de la possibilité de légitimer le droit constitutionnel et de l'intégrer donc dans le droit savant musulman a fait l'objet de points de vue inconciliables parmi les savants qui étaient les plus haut placés dans les hiérarchies chiites. Certains considéraient qu'il était possible d'intégrer l'idée de constitution, puisque aucun pouvoir en l'absence de l'imam occulté. Les chiites du duodécimain considèrent en effet que le 12e imam a été occulté vers 940 de l'ère chrétienne. Donc, en l'absence de l'imam occulté, on considère qu'aucun pouvoir étatique ne peut être parfaitement juste. Autrement dit, certains, et notamment le cheikh Nohini, qui est le plus illustre théoricien du constitutionnalisme chiite, le cheikh Nohini donc a publié un traité en 1909 disant que, en l'absence de l'imam infaillible, Masoum, il était préférable d'avoir une constitution, car cela permettait d'encadrer, donc de limiter le pouvoir inévitablement arbitraire et injuste des souverains temporels.
Et quels ont été les arguments de ces contradicteurs ?
Ces contradicteurs ont considéré que, et notamment le cheikh Fazlullah Nouri, qui dans un premier temps a participé à l'élaboration même de la Constitution en rédigeant l'article 2 de ce que l'on appelle le supplément de la Constitution, qui est
en 1907.
En 1907, exactement. Le cheikh Nouri a peu à peu, à cause de, je dirais, de radicalisation des camps favorables à la Constitution et opposés à la Constitution, a finalement rejoint le camp des personnes opposées au régime constitutionnel pour des raisons juridiques. Et il considérait que le droit musulman, je dirais, n'avait pas besoin d'un apport extérieur en matière juridique, et que le droit savant musulman, donc le fiqh, dans sa version chiite, en l'occurrence, n'avait pas besoin de constitutionnalisme. Il a même eu des termes très forts, disant que jusqu'à la parousie de l'imam occulté, eh bien, le constitutionnalisme était incompatible avec la loi islamique.
En revanche, sous climat sunnite, alors vous le dites si bien, il n'y a pas eu ces débats-là. On a accepté de facto le constitutionnalisme, où il y a eu quelques savants qui maugréaient quant à son application.
Malheureusement et heureusement pour la richesse des interprétations, les choses sont un petit peu plus complexes que cela, dans la mesure où cette constitution ottomane de 1876 a été suspendue par le sultan Abdulhamid II à peine un peu plus d'un an après avoir été promulguée. Autrement dit, au printemps 1878, la constitution n'a pas été abolie mais suspendue, de sorte que Abdulhamid II a régné en faisant abstraction de la Constitution. La Constitution n'a été rétablie qu'en 1908, et la restauration de la Constitution a fait l'objet de textes, pour le coup, à la fin du XIXe siècle, mais sans que, véritablement, cette question, qui est avant tout une question de droit, comment concilier deux traditions juridiques, n'a pas fait l'objet de théories importantes parmi les savants religieux à la fin du XIXe siècle, ni au début du XXe siècle.
Alors, ce qui est intéressant dans tout ce que vous nous présentez, c'est que d'aucuns disent que de tout temps, on a considéré ce mot qui nécessite toujours d'être expliqué, que la charia doit être la source du droit, appliquée telle qu'elle, ne variétu, alors que lorsqu'on accepte le constitutionnalisme, la production du droit est déférée à des hommes et des femmes en principe, en tout cas aux parlementaires, et ce sont eux qui, tout en s'adossant peut-être à des principes métaphysiques ou transcendants ou religieux, vont produire du droit, et la production du droit, la fabrique de la loi, deviennent une émanation rationnelle des hommes qui s'applique aux hommes pour le bien des hommes.
Dans la pensée de ceux qui adhèrent à cette idée.
Pour ceux qui y adhèrent, bien entendu. Et si ça a prévalu à un moment, ça veut dire que soit on l'a imposé par la force des choses, soit parce qu'il y avait une certaine adhésion, en tout cas chez la majorité.
En effet. Alors, il faudrait peut-être rappeler déjà que la charia est un terme complexe. La charia veut dire d'abord la voie. C'est la voie qui, on pourrait dire, est dans la pensée de Dieu. Mais la voie est inconnaissable dans toute sa richesse, etc., est inconnaissable. Et les savants religieux de l'islam, sunnites comme chiites, élaborent le fiqh. qui
une sorte de jurisprudence
qui est le droit. Alors
droit.
Justement,
non, vous dites
non.
Pas ça.
C'est une erreur et ma très maigre connaissance du droit, puisque je ne suis pas juriste de formation, m'a tout de même amené à voir que c'était impropre de traduire par jurisprudence, puisque la jurisprudence désigne en français l'ensemble des décisions des autorités judiciaires, ce qui ne correspond absolument pas au sens du droit savant, donc le fiqh. Fiqh vient de la racine arabe faqira, qui veut dire être intelligent, ce qui est très beau, être intelligent
compris.
Et qui a compris, exactement. Et donc le fiqh, c'est le droit élaboré par les oulémas, les savants religieux de l'islam, en fonction d'une certaine méthodologie qui est désignée en arabe par l'expression usul al-fiqh, donc littéralement fondement du droit savant. Et c'est donc ce droit élaboré à partir de deux sources canoniques, le Coran et la tradition, qui comporte les hadiths de Muhammad pour les sunnites et les hadiths de Muhammad et des imams pour les chiites décimains. Donc, ces sources, ces textes scripturaires sont les sources canoniques du droit savant, mais élaborées en fonction de procédés humains. De toute façon, donc, le droit savant est une élaboration humaine à partir de textes sacrés.
Donc, cette construction humaine, elle-même n'a pas à être sacralisée.
Si l'on est historien, on observe que, je dirais déjà, par nature, le droit savant est le fruit de l'interprétation par des savants, donc des hommes, des textes sacrés. Mais il faut aussi considérer donc que la source canonique de ce droit est
parce que Dieu
consiste
seul
dans
sait.
Les textes sacrés. Donc il y a, je dirais, une articulation entre des textes sacrés et une élaboration humaine.
Parce que le débat actuel, c'est comment se fait-il que certains, peut-être de par leur savoir, prétendent avoir pénétré le désir politique de Dieu et scruté sa volonté et qu'ils sont les seuls dépositaires de cette compréhension et qu'ils veulent l'appliquer à leurs semblables. Nous verrons ça, si vous souhaitez,
bien
après,
sûr.
Dans le fondamentalisme ou dans l'islamisme politique des dernières années.
Ben, je crois que vous soulevez une question tout à fait fondamentale. Si on voit, je dirais, l'immensité du corpus des textes sacrés, de toute façon, même si on est le plus soucieux de fidélité aux textes, des problèmes vont inévitablement se poser, et des problèmes qui ont d'ailleurs fait l'objet de théorisations très tôt chez les juristes savants musulmans, puisque certains versets coraniques, par exemple, sont contradictoires. Donc ces contradictions ont été pensées, bien entendu, par les savants religieux de l'islam très tôt. Donc première notion, même si on veut être le plus littéraliste possible, on ne peut pas se dispenser d'une doctrine, d'une herméneutique des textes.
Bien sûr, il y a tout le débat à propos de ce fameux verset 7 de la sourate 3, rappelant les versets ambigus, équivoques, et ceux qui sont explicites, etc. Ce n'est pas le propre de notre discussion aujourd'hui. Thank you. sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam avec l'historienne Constance Hermingeon, maître de conférence à l'École pratique des hautes études. Nous parlons à propos de son ouvrage « Une brève histoire de la pensée politique en islam contemporain » édité chez Labor et Fides. Constance Hermingeon, maintenant, pour cette dernière partie de l'émission, nous évoquerons ensemble, si vous voulez bien, les différents régimes qui érigent dans leur constitution que l'islam est religion d'État, parfois même article 2, et chez certains islamistes, ça ne leur fait pas plaisir, pourquoi pas article 1. Quelles sont les justifications chez ces penseurs islamistes ou chez ces doctrinaires pour qu'un État puisse avoir une coloration confessionnelle et que l'administration devienne captatrice des consciences de ses administrés?
Je crois qu'il faut rappeler que la place de l'islam et du droit que l'on appelle couramment musulman, donc le droit savant, les formulations ont varié au fil du XXe siècle. Dans les premiers temps, il est très intéressant de le noter, et même, par exemple, vous savez bien entendu que les pays musulmans n'étaient pas tous indépendants, et loin de là, au début du XXe siècle, dans les années 20, donc l'histoire est de longue durée, et il faut bien entendu distinguer les différents pays. Mais d'une manière générale, on observe que jusqu'aux années 1950-60, souvent, quand il y avait une constitution, la constitution indiquait que l'islam était la religion de l'État. Mais le texte constitutionnel n'était pas plus précis que cela. Et c'est seulement, en général, à partir de la fin des années 1960, que des dispositions souvent ont été intégrées dans un article qui était l'article 2 du texte constitutionnel. Et cet article 2 prévoyait que le droit musulman, défini comme la loi islamique, Ash-Shari'at al-Islamiyya en arabe, était une source principale du droit étatique, voire la source principale du droit. Autrement dit, il y a eu des variations très très importantes qui donnent bien entendu matière à réfléchir sur l'évolution concrète du droit et la manière dont les juristes, puisqu'il s'agit évidemment par excellence, quand on rédige une constitution de juristes, pensent élaborer le droit de l'État qu'ils sont en train de construire. Et quel est donc leur rapport à la tradition et leur rapport précisément à la tradition juridique? Comment faire apparaître ce lien avec le droit musulman? Eh bien, il faut inévitablement donc observer les variations de formulations qui sont, je dirais, riches de significations à la fois symboliques pour le rapport à la tradition, mais aussi riches de significations qui touchent à l'articulation entre plusieurs systèmes juridiques.
Oui, et c'est là où émergent les véritables difficultés quant à l'égalité de l'ensemble des citoyens par-delà leur appartenance confessionnelle ou pas, par-delà le genre d'ailleurs, et surtout ces questions de liberté de conscience, d'apostasie, de la relégation pour certains citoyens à d'autres zones, donc la rupture de l'égalité du droit. Et parce que si on se réfère à une vision un peu calcifiée, rigidifiée, cryogénisée pour certains de ce droit savant, peut-être qu'il ne l'est plus maintenant, ou en tout cas il l'est toujours, mais du point de vue de la réflexion, ça ne va pas de pair pour certains en tout cas, de l'idée que nous nous faisons du progrès ou du respect de la dignité humaine. Et comment ceci a été, j'allais dire, résolu, si tant est que le débat ne soit pas encore tranché?
Alors je crois que le débat est loin d'être tranché, mais ce qui me paraît extrêmement intéressant, c'est que le débat s'est profondément renouvelé depuis le début des années 1990, aussi bien dans le monde sunnite que dans le monde chiite. Jusqu'aux années 1980, les grands thèmes de la pensée politique restaient différents en islam sunnite et en islam chiite. C'est donc ce qui témoigne d'une certaine prégnance des cadres historiques. on a débattu, puisque la République turque a aboli le califat en 1924 pour l'abolition du califat. Donc les sunnites ont été préoccupés par l'abolition du califat et le régime qu'il importait d'établir après cette abolition. Certains même soutenaient qu'il fallait restaurer le califat. Dans le chiisme...
Parce que c'était perçu comme un traumatisme terrible.
Exactement.
Alors que d'autres, pardon, je vous ai interrompu, avaient regretté, s'étaient même réjouis, et avaient regretté que ce fût aussi tardif, et qu'il fallait peut-être finir avec cette institution bien avant le 3 mars 1924 par la Grande Assemblée nationale turque.
En effet, mais ces penseurs, et notamment l'illustre Ali Abdelrazek, savant religieux égyptien, est demeuré minoritaire. Il a, il faut le rappeler, été déchu de son statut de alim, de savant religieux, aussitôt après la publication du traité « L'islam et les fondements du pouvoir » dans lequel justement il se, comme vous le dites, il se réjouissait de l'abolition du califat en disant que l'islam, comme toute autre grande civilisation, pouvait s'affranchir de son passé, si j'irais, si on va très très bref. Et tandis que, je dirais, la pensée sunnite a été marquée jusqu'au milieu du 19e siècle par ce modèle califal, avec donc une très grande nouveauté représentée par Maududi, penseur indien, qui semble avoir été le premier à donner justement au califat le sens premier que vous rappeliez tout à l'heure, qui provient du Coran même, à savoir que Maududi rappelle la notion du califat comme la souveraineté, certes limitée, mais la souveraineté dévolue à l'humanité par Dieu lui-même. Et c'est dans ce seul sens, je dirais général, que Maududi évoque le califat dans ses ouvrages de théorie politique. Maududi donc s'est accommodé de la disparition du califat. Ce qui lui importait, c'est d'avoir un État qui perpétue, par-delà tous les changements de structure, la fonction principale du souverain musulman sunnite, c'est-à-dire que l'État devait faire respecter le droit musulman en interne et défendre l'islam comme religion et civilisation ad extra, donc à l'égard du monde extérieur. Mais Maududi donc s'est accommodé de l'État-nation et de la disparition du califat. Donc ceci marque un grand tournant dans la pensée politique sunnite. Dans le monde chiite, après la révolution constitutionnelle iranienne de 1906, un tournant majeur a consisté dans le tournant survenu à l'occasion de la révolution iranienne de 1979. Et c'est la théorie de Khomeini qui allait à rebours de la théologie politique chiite, malgré toutes ses variations historiques, qui a représenté un tel bouleversement dans les faits et dans le droit et dans la théologie politique. De sorte que l'avènement de ce nouveau régime dans le monde chiite a suscité un essor considérable de théories politiques, certaines légitimement, mais avec des variations qui sont très intéressantes à étudier pour justement la richesse des références mobilisées, et d'autres qui réfutaient donc la doctrine de Khomeini au nom d'une tradition théologico-juridique chiite du haut des Cimènes. Et c'est donc à partir des années 1980 et surtout des années 1990 que, je dirais, les thèmes principaux des débats des penseurs qui traitent du politique en islam, l'expression est un peu lourde, mais c'est, si l'on veut être précis,
elle est rigoureuse.
Voilà. On observe, je dirais, une sorte de parenté de préoccupations par-delà les clivages des branches de l'islam, convergence de préoccupations sur la question justement du droit et des manières de traiter ce dualisme juridique, donc dualisme qui résulte de la confluence historique entre une tradition juridique musulmane régulièrement transformée et une tradition issue du constitutionnalisme élaboré d'abord en Europe et aux États-Unis qui s'est elle-même transformée. Donc dans le monde sunnite et dans le monde chiite, les penseurs s'intéressent à ces questions des droits de l'homme, que l'on peut appeler les droits de l'homme, et divergent, et on observe une pluralité irréductible chez les sunnites comme chez les chiites, certains voulant, c'est le cas de juristes tunisiens notamment, qui ne sont pas des savants religieux, bien qu'ils aient une illustre ascendance, comme par exemple Chalfi ou Ben Rachoud, ces juristes veulent dissocier le droit étatique du droit religieux. Ils sont très éloquents et ce sont, à mon très humble avis, des juristes considérables, mais ils sont encore assez minoritaires dans les débats. Et d'autre part, dans le monde chiite, certains clercs, cette fois, donc savants religieux assez éminents iraniens, plaident pour l'intégration pleine des principes juridiques des droits de l'homme tels qu'ils sont énoncés dans la Déclaration universelle de l'ONU de 1948, mais là encore, ils sont minoritaires au sein du clergé et bien sûr parmi les législateurs.
Alors gageons, Constance Hermingeon, qu'ils seront écoutés et suivis, aussi bien ceux-là que leurs épigones en contexte sunnite, et surtout ces illustres juristes que vous avez évoqués. Nous arrivons au terme de notre émission. Merci de nous avoir édifiés par vos propos. C'était Question d'Islam. Chers amis auditeurs, vous retrouverez toutes les références des livres et des musiques sur le site franceculture.fr. L'attachée de production est Sylvia Favre. La prise de son a été assurée aujourd'hui par Bruno Mourlan et la réalisation est assumée par l'ami Franck Lilin.